Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on navigue au travers de trois sphères bien différentes. On parlera d'abord de misogynie au temps du numérique en empruntant la voix du dernier film des cinéastes Guylaine Marois et Léa Clermont-Dion, intitulé « Je vous salue, salope ».
On pense qu'on connaît, c'est quoi? Jusqu'à temps qu'on ait des informations plus directes, plus crues. C'est difficile de trouver les mots justes pour vraiment définir la cruauté en fait, c'est d'une violence inouïe.
Puis on souligne la Journée internationale de lutte contre le sida, qui nous rappelle que plus de 630 000 personnes en sont mortes l'an dernier.
Moi, je crois que c'est important, c'est pour apporter un soutien aux personnes vivant avec VIH-SIDA et puis rendre hommage à tous ceux et celles qui nous ont quittés et surtout conscientiser les gens par rapport au VIH-SIDA, la propagation, la contamination et changer nos comportements face au virus. Il faut que je sois malade pour comprendre que je suis malade. Non, il faut prévenir avant de guérir. C'est très important.
Et on fuit vers les grands espaces de l'île d'Anticosti, inscrite en septembre dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île d'Anticosti, c'est 280 résidents qui devront maintenant vivre avec cet honneur et les touristes qui suivront. Bienvenue à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. On lance l'émission autour d'un film très dur et qui a fait la manchette quand il est sorti en salle l'an dernier. On vous parle du film réalisé en 2022 par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois, intitulé « Je vous salue, salope ». Ce film a été projeté à Ottawa le 29 novembre dernier dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, une activité que proposait le comité Réseau d'Ottawa. La projection du documentaire a été suivie d'une discussion. Peur, colère, injustice, ce sont les mots que les femmes ont employés le plus souvent pour décrire ce qu'elles ont ressenti après avoir vu le documentaire des deux cinéastes québécoises. Marie Hillès nous a ramené ce qui suit.
40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol.
Une menace de nous tuer, puis vous pouvez pas nous protéger.
C'est un film que toutes les femmes devraient voir. Peu importe leur fonction dans la société, toutes les femmes devraient vraiment visionner ce film.
Le documentaire « Je vous salue, salope » sur la cyberagression a été projeté dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Une soixantaine de personnes ont participé à la projection. Lise Rowe souligne ce qu'elle a appris grâce au film.
La cyberviolence et la violence faite aux femmes, physiquement faite aux femmes, ça affecte tout le monde. Il n'y a pas de catégorie sociale, de niveau social vers qui la violence est limitée. Ça affecte toutes les couches de la société.
Pendant le film, on t'a entendu dire des mots. Ça veut dire que ça t'a marqué. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant que tu regardais ce film?
L'injustice. L'injustice faite aux femmes. Comment se fait-il qu'on voit tellement de violences faites aux femmes? Mais à mon avis, et d'après tout ce qu'on voit à la télé, au cinéma, la violence est vraiment plus axée envers les femmes qu'envers les hommes. Et je me dis, il y a quelque part, il manque sérieusement, à mon avis, je suis une ex-enseignante, et à mon avis, il faudrait qu'il y ait une éducation sexuelle faite envers les garçons beaucoup plus poussée.
Suzanne Cloutier du Service familial et counseling Ottawa a déjà vu la bande-annonce. Elle avait hâte de voir le film au complet.
Je sais aussi que dans notre expérience professionnelle, on a des femmes aussi qui vivent des choses au niveau de la violence par les médias. Et donc, c'est très à point comme film à ce moment-ci, surtout qu'avec les 16 jours d'activisme, on sait qu'il y a des formes de violence plus subtiles et qui sont plus difficiles des fois à dénoncer ou à parler. Donc, moi, je pense que ce film-là s'inscrit bien dans les 16 jours d'activisme aussi. C'est très important pour que les femmes qui ont vécu ou qu'on a subi de la violence, on puisse reprendre notre pouvoir personnel. Et c'est mon drive, c'est je crois en la force des femmes. Et parce que souvent dans la violence, les femmes on est éteint par rapport à notre qui on est, nos talents, nos compétences. Et moi, je me dis souvent, je suis comme une archéologue du cœur où on va chercher les trésors qui étaient éteints et on les ramène à la surface pour qu'ils puissent être vus, qu'ils puissent être entendus et dans un aspect de dynamique aussi. C'est très important que quand on reprend notre pouvoir personnel, qu'on soit capable aussi d'aller dans l'action, dans le mouvement. Et c'est dans le mouvement aussi qu'on amène le changement. Donc moi, c'est très important parce que je crois à l'importance que quand on a subi des traumas, on peut aussi revivre.
Marie-Thérèse Savage travaille comme intervenante aux violences faites aux femmes au Centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Selon elle, les chiffres concernant les violences faites aux femmes sont alarmants.
Ce n'est pas vraiment individuel, c'est collectif, c'est la société. Donc, il faut vraiment revoir dans la société comment on peut contrecarrer la violence faite aux femmes. Parce que cette violence, ça a des répercussions aussi sur les enfants qui sont témoins. Donc, les enfants témoins, c'est l'avenir de demain. Et si ces enfants-là vivent dans des familles dysfonctionnelles, ça veut dire que la société de demain, on voit déjà comment elle va être.
Natacha Brousseau est une maman. Elle est venue ce soir avec sa fille.
On pense qu'on connaît, c'est quoi? Jusqu'à temps qu'on ait des informations plus directes, plus crues. À ce moment-là, on tombe dans un autre univers complètement. Là, c'est difficile de trouver les mots justes pour vraiment définir la cruauté derrière, en fait, c'est très, très simplement d'attaquer la femme dans son côté vulnérable, de sorte à la dominer autant que possible. Fait que c'est d'une violence inouïe. Puis c'est gratuit.
T'as une fille qui est avec toi ici ce soir. Comment tu te sens quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau des cyberagressions?
Ce qui est très intéressant du côté du Québec, c'est que là, maintenant, les écoles ont des curriculums. Ils vont parler de la sexualité, du consentement, de l'intimité, de la de sextortion, qui est plus populaire là, en ce moment. Puis ils mettent vraiment les enfants là, dès le primaire, là, dès les plus jeunes années. Fait que ces enfants-là sont de plus en plus conscients, hein, de qu'est-ce qu'ils ont le droit d'accepter ou pas, puis de tout de suite dénoncer ce qui se passe. Mais c'est le manque de recours, tu sais. Ma fille a connu un épisode d'intimidation sans que ce soit cyberviolence ou quoi que ce soit, puis les recours étaient tellement minces, il a fallu qu'elle subisse ça pendant un an. Fait que je peux même pas m'imaginer si c'était de la cyber-intimidation, ça la suivrait toute sa vie, tu sais. Fait qu'il y a pas de fin à ça, c'est...
Lise est aussi inquiète, et avant de partir, elle ajoute...
J'ai deux petites filles qui, j'espère, n'auront pas à subir de cyberviolence sexuelle ni de violence sexuelle physique. Mais ça, on n'en sait rien, n'est-ce pas?
C'était un reportage de Marie Hillès pour IGL à Ottawa.
Bonjour, ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
On a tendance à l'oublier avec tout ce qui nous est arrivé ces trois dernières années, de 1, que la pandémie de la COVID-19 n'est pas terminée, et de 2, qu'elle n'est pas seule à avoir tué des millions de personnes dans le monde entier. L'épidémie du sida l'a précédée dans les années 80, elle qui aurait fait, depuis sa découverte, près de 38 millions de morts en près de 40 ans. À titre de comparaison, l'OMS rapporte que la COVID-19 a fait près de 7 millions de morts dans le monde en 3 ans seulement. Quelques chiffres. Les dernières statistiques de l'ONU-SIDA estiment que près de 40 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH dans le monde. 53% d'entre elles sont des femmes. 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées en 2022 et 630 000 personnes en sont mortes cette même année. Si l'ONU-SIDA nous réconforte un peu en précisant que 76% des personnes infectées ont maintenant accès à un traitement antirétroviral et que les décès liés au sida ont été amputés de 69% depuis le pic de 2004 et même si on peut de plus en plus vivre une vie quasi normale avec la maladie, reste que le défi est encore de taille. La Journée internationale de lutte contre le sida nous rappelle que le combat donc n'est pas gagné, qu'on doit doit redoubler d'efforts pour informer la population sur les risques qu'elle encourt. À Toronto, le Centre francophone du Grand Toronto, Action Positive et l'Alliance des Africains pour la lutte contre le VIH en sont bien conscients de ces défis. Les trois organismes qui tenaient une soirée d'information dans le cadre de cette Journée internationale de lutte contre le sida le 1er décembre dernier, trois organisations donc qui travaillent avec des populations au profil très varié, et parmi eux, de nouveaux arrivants, mais aussi des jeunes, souvent moins bien informés, moins sensibilisés à l'existence du VIH. Marine Otogali est allée à leur rencontre.
Bonjour Normand, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait ici aujourd'hui au Centre francophone du Grand Toronto?
Eh bien, on est le 1er décembre. On souligne, je ne parlerai pas de célébration quand même, mais on souligne, c'est la Journée internationale de lutte contre le sida. C'est la 40e, si je ne me trompe pas. Et on aimerait beaucoup qu'on ait, que ce soit une commémoration et une chose du passé, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a toujours des cas, il y a toujours des gens qui sont infectés à chaque année. Donc, c'est un moment nécessaire.
Normand Bobin, directeur général chez Action Positive VIH-SIDA.
C'est un moment où, cette année, on va avoir des gens qui vont venir parler de leur expérience, principalement. Le thème, cette année, de ONU-SIDA est « Confier le leadership aux communautés ». Donc, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui.
Pourquoi il faut confier le leadership aux communautés?
Parce que je pense que c'est les personnes qui sont le mieux placées pour savoir ce dont on a besoin. Et il y a des développements dans les traitements, entre autres. Et il y a aussi un nouveau phénomène qu'on n'avait jamais imaginé, mais les gens vieillissent avec le VIH. Ça provoque certaines choses comme des comorbidités, etc. Donc, c'est les personnes qui sont séropositives qui sont le mieux à même de parler de leur expérience. Et je pense que c'est eux qui doivent générer, d'une certaine façon, les recherches et orienter les recherches. Il y a deux choses qui sont inquiétantes, je dirais, pour le VIH. Les nouveaux arrivants, souvent, ils viennent de pays où leur sexualité était taboue complètement. Donc, ils découvrent, ils expérimentent et 2-3 ans plus tard, voilà, un verdict VIH. Et on a aussi des gens qui arrivent, qui sont déjà VIH, qui viennent de pays où ils étaient rejetés par leur famille, les médecins, personne ne voulait les voir, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, etc. Donc, ils vivent des situations très, très difficiles. Et ils arrivent ici, ils sont très surpris, en fait, de la facilité avec laquelle on va pouvoir parler de tout ça. Mais il y a un autre phénomène qui, moi, m'inquiète beaucoup, beaucoup, et qui concerne les jeunes. Et les jeunes, je vais monter jusqu'à 35 ans, les jeunes générations n'ont aucune idée de ce qu'a été le sida. Ils n'ont aucune idée de ce que ça représente être séropositif. Ils agissent un peu inconsciemment, forcément, et si les familles ne s'impliquent pas dans l'éducation, il n'y a aucune chance qu'ils découvrent des choses, qu'ils apprennent des choses sur le VIH. On a vu, il y a un objet qui a été créé par l'Université d'Ottawa qui s'appelle Get a Kit. Et on peut aller en ligne, on peut commander un kit, un autotest pour le VIH. On reçoit ça, c'est anonyme et tout ça. Donc, ça a été lancé pendant la COVID, évidemment. Personne n'avait accès à des cliniques, personne n'avait accès à des traitements, etc. Ils se sont dit, après la COVID, ça va tomber, les gens vont aller simplement se faire tester. Mais non, les nombres continuent d'augmenter beaucoup. Et on se rend compte qu'une grande partie de la clientèle a moins de 20 ans. Évidemment, c'est un sujet délicat. On va pas dire à maman, OK, j'ai fait quelque chose. Alors, ils ont aucune information sur ce qu'est le VIH. Donc, ils ont peut-être une crainte, ils ne savent pas comment ça s'attrape, etc., comment on s'infecte. C'est assez inquiétant. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant. Il n'y a pas, pour un pays aussi développé que le Canada, il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent. Et il y a des gens qui viennent de pays où ils n'ont jamais entendu parler de ça. Il y a des gens qui vivent dans une communauté où on n'a jamais parlé de ça. Donc, c'est un sujet plus difficile pour l'éducation et pour les parents, mais je pense que c'est un sujet vraiment, vraiment nécessaire.
Alors, bonjour Estelle. Aujourd'hui, on est ici en compagnie d'organismes comme Action Positive et
African in Partnership Against AIDS. Et donc, on a décidé de se réunir, les trois organisations, pour commémorer ensemble la journée de lutte contre le sida.
Estelle Duchamp, vice-présidente pour les services de santé, amélioration de la qualité opération.
On a un programme, en fait, du VIH-SIDA au centre francophone. Donc, on accompagne les personnes qui soit vivent avec le VIH, soit sont à risque de vivre avec le VIH. On fait ce qu'on appelle de la gestion de cas. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne individuellement les personnes pour les aider à accéder aux différents services dont ils ont besoin. Ça peut être des services de santé, mais ça peut aussi être tout autre type de service pour lesquels ils ont besoin de navigation et d'accompagnement. Donc, on a une équipe qui fait ça et on organise ensuite différentes activités, surtout avec nos partenaires, avec des groupes de parole, des groupes de discussion, pour que les personnes puissent rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi avec le VIH-SIDA, puissent échanger. C'est aussi très important dans une logique de déstigmatisation. Et enfin, on a nos services cliniques habituels qui appuient l'équipe, avec des médecins, des infirmières qui peuvent être amenées à intervenir sur différents sujets.
Comme Normand de Action Positive, vous avez constaté une évolution sur les dernières années des personnes qui viennent vous consulter dans le cadre de l'action contre le sida.
Ce qui est certain, c'est qu'on vient de passer, avec la période du Covid, par une phase difficile parce que les gens se sont retrouvés beaucoup plus isolés. On n'oublie pas, on était tous chez nous. Donc, c'était plus difficile pour les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA pour deux raisons. C'est qu'elles étaient très isolées d'une part, mais aussi parce que tout était plus compliqué dans l'accès aux services. On l'a vu, juste aller voir son médecin de famille, c'était plus compliqué. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui a besoin d'accès à des traitements, à des conseils, à quel point c'était plus difficile. Et on a observé une vulnérabilité, je dirais, accrue chez nos clients de façon générale au centre, avec de plus en plus de besoins d'intervention sociale. On sait que vivre à Toronto, c'est difficile en ce moment, la vie est très chère, donc notre clientèle, quels que soient nos services, fait vraiment face à ça, donc une grande plus de pauvreté, plus de difficultés dans l'accès au logement et donc plus de besoins d'accompagnement pour les communautés.
Vous attendez combien de personnes ce soir? Qui est invité?
On a invité la communauté de façon générale, donc on espère avoir une large participation, que ce soit des clients qui sont dans nos programmes, mais aussi de personnes qui juste ont envie de s'intéresser à la lutte contre le VIH-SIDA et qui veulent s'impliquer d'une façon ou d'une autre. C'est une belle façon de déstigmatiser aussi cette lutte-là.
Je suis cliente dans toutes ces organisations qui organisent cet événement-là et j'étais choisie pour être modératrice.
Ursule Katchoka.
Moi, je crois que c'est important, c'est pour apporter un soutien aux personnes vivant avec VIH-SIDA et puis rendre hommage à tous ceux et celles qui nous ont quittés et surtout conscientiser les gens par rapport au VIH-SIDA, la propagation, la contamination et changer nos comportements face au virus.
Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'est encore pas assez informé, qu'il faut qu'on communique plus sur le VIH?
On communique parce que maintenant, il y a un événement aujourd'hui dans à travers le monde entier. C'est à chacun de faire une attention par rapport à ce qu'il entend et à ce qu'il va prendre comme important dans sa vie. Il faut que je sois malade pour comprendre que je suis malade. Non, il faut prévenir avant de guérir. C'est très important.
C'est un partenariat que vous faites souvent avec Action Positive et le Centre francophone?
Oui. Ça fait un beau temps que nous travaillons ensemble, les trois organismes.
Anastasie, travailleuse communautaire pour l'APA, Alliance des Africains pour la lutte contre le VIH.
Nous avions commencé avec le Centre francophone. Après, nous avons dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous avons invité Action Positive. Maintenant, nous travaillons ensemble depuis un certain temps. Et nos rencontres, ça s'est fait à chaque premier samedi du mois. Mais c'est un groupe fermé que les gens ne peuvent pas venir puisque c'est pour les personnes vivant avec le VIH. Alors, pour qu'on puisse inviter quelqu'un, il faut qu'on puisse demander d'abord la permission des personnes vivant avec le VIH. Et ça marche très bien.
Ce cercle, il permet de discuter, de se retrouver. Est-ce que vous faites des actions derrière pour aider les personnes? C'est vraiment un cercle social.
Nous faisons de tout, puis c'est les séances d'éducation surtout. Puis c'est la plupart des activités se font en anglais. Et alors, nos clients, des fois, se perdent. Hein, le fait que tout est en anglais. Alors, nous avons décidé de faire des ateliers, des formations en français. Et puis, nous faisons des pique-niques, nous sortons et nous visitons la ville de Toronto. Tant d'activités selon les besoins des clients, ceux qui décident. Hein,
Vous sentez qu'il y a un besoin francophone d'accompagnement des personnes atteintes du VIH?
Oui. Nous en avons besoin, hein, puisque quand vous voyez la plupart de, comme on dit, comme d'études, hein, recherches, ça se fait souvent en anglais. Il n'y a pas d'études qui se font en français. C'est un problème. Cathy essaie de nous aider petit à petit avec la documentation, mais je pense que il faut qu'on aille plus que ça. Les francophones sont très importants. Comme on disait jadis, avec, à l'époque, j'oublie le nom de monsieur qui était à Ottawa, hein, qui venait faire les études avec les francophones. C'est pour dire que le français n'est pas seulement la langue, c'est une culture. Et quand vous voyez à Toronto et à Ontario ailleurs, et la communauté francophone est en train de grandir. Mais quand on regarde sur le plan ressources, on n'en a pas assez. Nous sommes comme si oubliés. Il faut demander les services. Pourquoi demander? Nous faisons partie de la communauté. On n'a pas à demander. C'est un besoin. Moi, je pense que les gouvernements, chaque fois qu'ils font des programmes, qu'ils ont tenu compte de la minorité. Nous ne sommes pas une langue, mais nous sommes une culture. Nos enfants, nous ne voulons pas la langue française et puis se perdre, surtout en Ontario. Comme on dit, les Français en dehors du Québec, c'est nous, avec nos enfants. Nous en avons besoin, vraiment.
Bonsoir tout le monde. Merci Normand et Anna. C'était important pour nous de vous recevoir ensemble ce soir.
C'était un reportage de Marine Autogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local.
Et pour conclure cette édition de Point de vue, on prend la poudre d'escampette pour faire une halte au beau milieu du fleuve Saint-Laurent au Québec, là où l'horizon est si vaste qu'on peut difficilement apercevoir l'autre bout de la rive, tant il est lointain. Là, c'est l'île d'Anticosti qu'on retrouve encore cette semaine. On se souvient qu'elle a été inscrite en septembre dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec cet honneur viennent de nouvelles responsabilités pour la municipalité de Port-Meunier sur l'île d'Anticosti, dont celle de rafraîchir ses infrastructures d'accueil et routières. Ceci alors que l'île se prépare, croit-elle, à accueillir un nombre accru de touristes qui viendront voir ce qui s'y passe. Anticosti est notamment reconnue pour sa richesse fossilifère et pour ses paysages grandioses, bien sûr, sa faune. Si cette nouvelle notoriété internationale est gage de vitalité pour la municipalité de Port-Meunier qui compte 177 habitants, la mairesse Hélène Boulanger affirme que d'importants travaux devront être réalisés afin de gérer l'affluence touristique projetée. Raphaël Hensley-Vincent l'a rencontré.
L'île d'Anticosti a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en septembre dernier en raison de sa richesse fossilifère exceptionnelle. L'île constitue l'enregistrement paléontologique le plus complet et le mieux préservé de la première extinction massive de vie animale survenue il y a 445 millions d'années. L'UNESCO affirme que l'inscription sur cette liste, qui répertorie l'héritage du passé que l'humanité souhaite transmettre aux générations futures, entraîne une plus grande sensibilisation du public et renforce les activités touristiques sur ces sites. Si cette nouvelle notoriété internationale est gage de vitalité pour la petite municipalité de 177 habitants, la mairesse de Port-Meunier, Hélène Boulanger, affirme que d'importants travaux devront être réalisés afin d'accueillir l'affluence touristique projetée. Au niveau de l'hébergement, la mairesse souligne que c'est un défi énorme que de loger les touristes présagers puisque Port-Meunier connaît déjà un manque aigu de logements. Pour développer ses capacités d'accueil, la municipalité doit trouver de nouveaux terrains, créer de nouvelles rues et développer ses infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Tout est interrelié, souligne Hélène Boulanger, et tout est à faire.
Là, pour l'instant, à l'intérieur du périmètre urbain, là, on n'a pas de terrains qui sont disponibles. Si on veut faire une rue, une nouvelle rue, il faut avoir des terrains. Ils appartiennent au MRNF, ministère des Ressources naturelles. Et il faut aller chercher du terrain pour après ça penser. Mais là, pour faire ça, il va falloir aller chercher un urbaniste, parce qu'on parlait de plan d'urbaniste tout à l'heure. Alors, j'ai pas de plan d'urbaniste, j'ai pas d'urbaniste, j'ai pas de rue, j'ai pas d'infrastructure. Il faut mesurer là, tous les enjeux simultanés qui sont à faire pour le premier bâtiment qu'il y aura à faire. Mais il va falloir qu'ils viennent des gens pour bâtir. On va les mettre tout. C'est vraiment des taux de difficulté plus élevés. c'est pas banal. Mm-hmm. C'est pas banal de penser, là, on les met où, là? S'il y a besoin d'avoir une équipe de 10, 12 personnes. Et des fois, les gens peuvent pas s'imaginer jusqu'à quel point il y a une complexité.
Au niveau du transport, la mairesse souligne aussi comment l'accessibilité de l'île demeure un enjeu incontournable. À ce sujet, dans le cadre de l'annonce de la création d'un parc marin entre l'île d'Anticosti et les îles Mingan, la Corporation du port de Havre-Saint-Pierre a réitéré récemment le besoin d'établir une navette fluviale pour assurer une liaison régulière entre Havre-Saint-Pierre, Port-Meunier et Rivière-aux-Renards en Gaspésie. Tout ce travail prendra du temps, et d'ici là, la mairesse lance un appel aux touristes, celui de bien s'informer avant de visiter l'île, pour éviter de se retrouver sans ressources.
Puis ces gens-là qui veulent venir, on ne veut pas que s'éteigne leur curiosité de venir visiter. Puis, de quelle façon on peut les accueillir? C'est quelque chose. Minimalement, je souhaite que toutes ces personnes-là s'informent bien, qu'ils fassent la prévision de leur voyage pour savoir où ils vont. Je me dis toujours, si jamais je voulais faire un voyage sur la Lune, alors je prendrais vraiment mes mesures pour savoir tout ce que j'ai à faire d'organisation. Ben, c'est un peu comme ça, là.
Port-Meunier a toutefois beaucoup à gagner de ce tourisme, croit la mairesse.
C'est de la vitalité. C'est le mot qui dit tout, la vitalité. Quand on est en région éloignée, et surtout du côté de la Côte-Nord, quand il y a un phénomène de dévitalisation qui est majeur, c'est pas ça. Quand on vit dans un endroit, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on veut, c'est de la vitalité, puis on veut que la roue arrête puis reparte dans le bon sens pour aller chercher des familles, pour aller chercher des travailleurs, pour créer de l'emploi. Puis c'est par un dynamisme économique. Pour nous, bien évidemment, la visibilité de l'UNESCO, ça fait de la fébrilité. Il y a plusieurs personnes qui sont attentives. C'est la vitalité, c'est la pérennité. Parce que c'est pas juste c'est pour le besoin passif que les gens partagent avec nous la beauté de l'île. C'est pour continuer à y vivre d'une façon améliorée. C'est ça le but.
Si la vie insulaire et la solitude qu'elle amène n'est évidemment pas faite pour tout le monde et que plusieurs personnes n'apprécieront les joyaux de l'île que le temps de leurs vacances, l'afflux projeté de touristes avec ce nouveau statut insuffle l'espoir à la mairesse qui espère que cela amènera vitalité et pérennité pour sa municipalité.
Eh bien, c'est sur ce reportage de Raphaël Hensley-Vincent que se conclut cette édition de Point de vue. On remercie nos journalistes Marine Togali et Marie Hillès, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une présentation du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenu compagnie et de rester là pour ceux et celles qui nous suivent. À bientôt. Ciao.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.